homme de peu, homme de paille et homme de l'aglo. Femme du monde, femme du demi-monde et même femme du tiers-monde. Troubadour turfiste, gaulliste crépusculaire et rappeur cancéreux. Oyez, ma belle parole, ce lutricine votre doux ménestrel s'en va vous conter les mille et une légendes de notre beau pays.
Solutricine nous parle d'un métier qui connaît de nombreux adeptes dans notre région, celui de diagnostiqueur de caravane. Roland Barthes, lui-même, a longtemps écrit dans une caravane deux essieux de luxe avant de se faire connaître du grand et du petit public. Et Francis Ponge, dans ses mémoires, nous raconte ses exploits en camping-car sur les petites routes des hauts plateaux de l'Aubrac.
L'homme assèche sa soif de travail dans le compte-gouttes de ses heures sup. Il déclarait, il n'y a pas encore si longtemps, Lionel Jospin, avant de prendre sa retraite anticipée, car il avait soudainement pris conscience, en pleine campagne présidentielle, qu'il était à jour de ses trimestres de cotisation. S'il y a bien un métier principalement exercé dans notre belle région, qui mérite qu'on s'y arrête, c'est celui de diagnostiqueur de biens immeubles roulants, ou diagnostiqueur BIR. Cette profession est similaire à celle que tout le monde rencontre pour faire la loi Carrez quand on souhaite vendre son appartement. Simplement, elle est spécialisée dans les mobile homes et les caravanes. Un décret d'application va bientôt officialiser ce nouveau job, mais il est vrai que le gouvernement traîne encore un peu. Peut-être est-ce dû aux origines hongroises du président, car les Modior, en général, ont une aversion déclarée pour la population rome et donc des gitans en général. Il faut bien reconnaître cette qualité. Il n'y a rien de tel que de prendre un expert manouche certifié pour acheter une caravane d'occasion. Étant tous nés dedans, ils y connaissent toutes les ficelles pour économiser l'essence et y vivre heureux sur les bordures d'autoroute, finissant le soir une bonne bouteille en regardant passer les étoiles filantes du bitume qui berceront leur sommeil comme une vieille cassette de comptine calée sur auto-reverse. Les caravanes présentent des différences notables. On distingue la caravane 1 essieu, celle à 2 essieux, mais aussi la surbaissée. Plus luxe, la finition en bois sculpté reste un fantasme, rarement atteint, pour tous les camping-caristes retraités. Lorsque notre diagnostiqueur établit son rapport, il fait aussi un diagnostic de dépendance énergétique, ou DPE. Il vérifie donc l'isolation thermique et phonique du véhicule. Il contrôle si les doubles vitrages sont aux normes et qu'il y a bien du gaz argon pour isoler. Si vous voulez changer les volets, il est important de respecter la réglementation intérieure de chaque camping, afin d'harmoniser au mieux l'espace. Il paraîtrait en effet curieux de placer du volet tyrolien en chaîne massif dans un camping méditerranéen. Il vérifie aussi que la caravane n'est pas trop énergivore. Il conseille souvent sur le toit un panneau solaire. Contrairement à une maison, le diagnostic de performance énergétique pour en mesurer la production de gaz à effet de serre n'est pas qu'interne. Le bon diagnostiqueur se doit d'étudier l'aérodynamisme afin d'établir un rapport entre la prise au vent et la consommation d'énergie. Le modèle Princesse Capucine, surnommée la Cadillac des caravanes, même si elle paraît séduisante et raffinée, se révèle ruineuse dès qu'il s'agit de faire une poignée de kilomètres. Les pneus aussi ont un rôle à jouer, et croyez-moi, un expert manouche identifiera tout de suite si votre essieu tourne avec du pneu réchappé de qualité ou de la daube albanaise. Un équivalent de la loi Carrez existe aussi, seulement on prend en compte le volume dans une caravane, d'où le nom de loi Cubez, qui régit les minima pour parler de pièces habitables dans une caravane. Un diagnostic termites et animaux xylophages existe aussi. Il n'est pas répertorié beaucoup de caravanes en poutre apparente, à part deux fabricants moldaves qui cultivent l'esprit rustique. Et maudissent les designers italiens, les poutres semblent passer de mode. Cependant, la termite du Mozambique, qui a muté ces dernières années à force de se reproduire dans les décharges à ciel ouvert, est l'ennemi numéro un des caravanes d'aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter une seconde, quand on a un doute, de faire des sondages dans le plastique pour vérifier si un nid ne s'y cache pas. On les retrouve souvent dans les plaques d'isolation ou coincées entre les joints. Le seul moyen pour traiter est de faire venir des spécialistes qui vont utiliser un véritable arsenal de produits chimiques pour les éradiquer. Un diagnostiqueur gitan m'a expliqué qu'il existait un vieux truc de grand-mère pour les chasser. Je vous le livre, on ne sait jamais, ça peut toujours vous servir. Vous prenez votre caravane et vous la plongez dans une piscine pendant 72 heures. Le remède est imparable. tout le nid aura péri noyé. Après, sa famille a un truc spécial. Pour pas que cela se reproduise, sa grand-mère récupère avec le filet à papillons de la piscine les termites oxyses et fait une pâte avec leur thorax uniquement. Et ensuite, elle enduit toutes les parties plastiques de la caravane. Inutile de vous dire qu'avec ce genre de traitement, les termites du Mozambique tournent les talons aussi secs. La caravane n'a pas toujours été l'apanage des pauvres. Les Nordiques revendiquent la liberté totale qu'offre ce moyen d'évasion. Il n'est pas rare de croiser un ministre scandinave en fonction au volant de sa caravane qui a décidé de passer ses vacances en Lozère avec toute sa famille. Mais il existe aussi des caravanes d'exception que l'on ne voit qu'en première page dans les magazines. Je pense notamment à la caravane Schumi. Elle n'est éditée qu'à quelques exemplaires par Ferrari et s'adresse à de riches collectionneurs. Il faut, cela va de soi, avoir déjà une Ferrari de type F40 et avoir placé la fameuse boule Ferrari à l'arrière pour clipser la caravane. La boule n'est pas le vulgaire bitonio recouvert d'une balle de tennis usagée, mais bien une grosse bite en tungstène, car avec la vitesse, l'échauffement est tel que l'acier ne pourrait y résister et vous seriez bon à aller chercher les restes de votre caravane dans les chicanes, au bout de quelques tours un peu attaqués. Chronométrée sur circuit, la caravane Ferrari fait du 270 de moyenne, ce qui est vraiment phénoménal quand on pense à la difficulté d'accélérer dans les côtes pour doubler, alors qu'on est équipé d'un camping-car à la papa. À tout seigneur, tout honneur, la caravane la plus célèbre des Français reste celle du général de Gaulle, de fabrication française, sous la marque Renault, pour équilibrer avec sa voiture la fameuse DS Citroën. Elle ne connaîtra que des changements mineurs. Elle sera juste blindée, exigence voulue par le ministère de l'Intérieur après l'attentat du petit Clamart. Elle présentait aussi la particularité de s'étirer verticalement, comme bon nombre de modèles, mais aussi horizontalement, car le général et sa famille n'étaient pas des petits joueurs question plumard. Les blindages avaient pas mal soulagé les voisins qui, bien que fascinés par la proximité avec l'homme illustre, consommaient l'équivalent du budget de la santé du Ghana en boules-quièces pendant les grandes vacances et faisaient la fortune du vendeur de boules de gomme le plus proche. Il faut rappeler aux plus jeunes que le général et sa famille étaient des exemples de probité. Ils s'étaient payés leur caravane et son blindage eux-mêmes, et il paraîtrait même, d'après certaines biographies non autorisées, que le blindage leur coûta si cher que sa femme dut faire un crédit chez CTLM. Sur le mur de sa cuisine, Simone de Gaulle, la petite nièce, a collé une photo de vacances que lui envient bien des people. C'est un Polaroid où l'on voit le libérateur de la France occupé, pendant ses congés payés, une glacière à la main et l'autre tenant le fameux parasol sans anneau, en marcel, mais digne, attention, toujours en képi, la nuque luisante de crème, jetant un œil froid à sa bergère parce qu'elle traîne pour aller à la plage. Il est navrant qu'à Colombey, dans son musée, on n'ait pas gardé sa caravane et au dire du petit-fils de Gaulle, si vous passez près du cimetière, à l'une des entrées, vous croiserez un restaurateur de rue d'origine wallonne qui a converti celle-ci en friterie mobile. Eddie Mitchell est une star dans le petit monde globalisé du camping-cariste. Il a vraiment un modèle particulier que les collectionneurs s'arracheront si un jour ils décident de s'en séparer. Il est l'heureux propriétaire d'un rutilant petit camping-car tout en chrome avec de belles jantes crème. On dirait qu'il a été designé par General Motors dans les années 50. Il est magnifique et présente la particularité de pouvoir être tiré par une moto. Monsieur Eddy a donc une Harley retravaillée façon chopper, magnifique, qui tire sa caravane surbaissée. Ses fans ne le voient pas souvent avec, et c'est dommage, car la star en jette quand elle décide de se détendre, voire de se lâcher, un week-end dans un camping pyrénéen, et promet de jouer de l'harmonica et de la guitare au coin du feu, en buvant du genépi local all along the night. Il existe une personnalité qui est presque du showbiz puisqu'on le voit tout le temps à la télé et qui adore les campings. C'est Justin Bridoux. Cet homme, dont on pourrait se moquer à tort, a réussi un incroyable pari. Il a entièrement conçu l'intérieur et l'extérieur de sa double essieu en peau de saucisson. Il représente un modèle pour l'écologie moderne car sa caravane agglomère au moins une tonne de déchets de boyaux de porc qui ont été solidifiés par un traitement 100% naturel. Le seul problème que rencontre Monsieur Bridoux, c'est qu'il ne peut pas rentrer dans les campings halal et qu'une simple balade en Tunisie ou au Maroc est plutôt mal accueillie. Là-bas, comme il le dit lui-même en nous faisant un clin d'œil entendu, les chameaux aboient mais la caravane ne passe pas. Il s'estime victime d'une bureaucratie douanière un peu tatillonne qui n'a même pas voulu être prise en photo à côté de sa caravane alors que ce sont les seules personnes que M. Bridoux et sa famille ont pu rencontrer lors de leur périple, lors de leur fantasia en famille, avant de se faire chasser de la frontière à coups de pierre.